Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. En Syrie, les Kurdes résistent aux soldats turcs alors que l'armée syrienne est arrivée dans la ville clé de Minbej. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial Aurélien Colli. Sur le front diplomatique, Donald Trump annonce des sanctions économiques contre la Turquie qui serait allée trop loin dans cette offensive. Le changement de ton du président américain inquiète la population turque. Reportage à Istanbul, Dan Andloer. En France, Édouard Philippe ne veut pas d'une loi qui interdirait les sorties scolaires aux mères de famille voilées. Le Premier ministre a tenté de clore le débat qui agite la classe politique. Nous l'entendrons. L'université de Cergy-Pontoise retire un document interne sur les signaux faibles de radicalisation au sein de l'établissement. Document condamné par la plupart des enseignants et des étudiants. Nous en parlerons avec notre invitée Orlane François, présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant français. Au septième jour de l'offensive turque en Syrie, les forces kurdes opposent une résistance farouche aux soldats d'Ankara et à leurs supplétifs syriens. Les combats se concentrent ce soir autour de la ville clé de Ras Al Ain, toujours aux mains des Kurdes et de leurs alliés. De son côté, l'armée syrienne a pris le contrôle d'une autre ville clé, Minbej, en vertu d'un accord passé avec les responsables du Kurdistan syrien, le Rojava. On retrouve notre envoyé spécial dans la région, Aurélien Colli.
L'armée syrienne était déjà déployée aux abords de cette ville, située à 30 km seulement de la frontière turque, à l'extrémité ouest de la zone de sécurité que Ankara veut créer avec cette offensive. Mais l'armée syrienne attendait le retrait des troupes de la coalition internationale, essentiellement américaine, pour y entrer. C'est chose faite depuis la mi-journée. Images de camions, de tanks et de soldats syriens entrant dans cette ville clé où le régime n'avait plus mis les pieds depuis 8 ans et qui était contrôlée depuis 2018 par un conseil militaire composé de combattants arabes et kurdes. C'est après des pourparlers intenses entre ce conseil militaire et le régime de Bachar al-Assad que ce déploiement de l'armée syrienne a pu être fait. Négociation pilotée par la Russie, qui est désormais la seule à pouvoir empêcher un affrontement direct entre d'un côté son allié, le régime syrien, et de l'autre son partenaire, la Turquie. Le Kremlin a prévenu qu'il ne permettra pas d'affrontement entre les deux armées qui sont très proches, qui serait synonyme de déflagration régionale. La police militaire russe mène déjà des patrouilles le long de la ligne de contact entre les deux forces.
Aurélien Colli depuis le Kurdistan irakien près de la frontière syrienne avec Benjamin Chauvin pour les moyens techniques. La Turquie dénonce ce soir, je cite, le sale marché conclu entre Damas et les forces kurdes. Ankara déterminée à poursuivre son offensive avec ou sans le soutien du monde, selon les termes de la présidence à Ankara. Si Donald Trump a ordonné le retrait des troupes américaines en Syrie, il a aussi durci le ton hier soir face à son homologue Recep Tayyip Erdogan. Le président américain a notamment ordonné l'arrêt des négociations commerciales avec la Turquie. Il a aussi décrété une série de sanctions comme la hausse des tarifs douaniers sur l'acier turc. Donald Trump s'était dit prêt à détruire l'économie turque si Ankara allait trop loin dans son offensive. Des menaces qui suscitent à la fois colère et inquiétude à Istanbul. Le reportage d'Anne Andloer.
Il y a bien sûr les Turcs comme Sinan, auxquels les sanctions de Donald Trump ne font ni chaud ni froid.
Les Américains ont toujours essayé de créer des crises dans notre pays et nous serons toujours là pour le protéger de notre corps. Nous n'avons peur de personne.
Mais derrière la bravade, les sanctions frappent là où cela fait mal, l'économie, la fragile économie turque, qui a déjà beaucoup souffert l'an dernier d'une crise avec Washington. L'inflation mène la vie dure à des millions de Turcs comme Aliye, une retraitée.
Est-ce que notre économie n'était déjà pas suffisamment mal en point? Je vois pas comment je vais m'en sortir. Je touche 1500 livres de pension, je paye 1300 livres de loyer. Que ceux qui nous dirigent viennent voir comment on survit avec 200 livres par mois.
Les autorités turques publiaient justement ce mardi les derniers chiffres du chômage. Près de 14% en juillet, en hausse de 3 points par rapport à l'année dernière. Berkan, ingénieur sans emploi, envisage de s'expatrier si la situation empire.
J'ai de moins en moins d'espoir pour l'avenir de mon pays. Nous sommes de plus en plus isolés politiquement, économiquement, nous prenons du retard sur les autres. Il n'y a plus grand-chose qui puisse convaincre les jeunes comme moi de rester.
Pour l'instant, les mesures américaines, relativement symboliques, semblent n'avoir qu'un impact limité sur le cours de la monnaie turque et donc sur l'économie. Cela pourrait changer vite si Washington décrète une nouvelle série de sanctions.
Anne Andloer, correspondante de RFI en Turquie. Le feuilleton du Brexit, un accord reste possible avant la date butoir du 31 octobre, affirment ce soir les négociateurs européens et britanniques. Les discussions se poursuivent en ce moment à Bruxelles, l'objectif étant de trouver un compromis sur la frontière irlandaise, un regain d'optimisme qui a dopé la livre sur les places boursières. La devise britannique a gagné aujourd'hui plus de 1% face à l'euro et au dollar. Faut-il interdire le port du voile aux mères de famille qui accompagnent une sortie scolaire? Le débat a été relancé de manière brutale la semaine dernière par un élu RN de Bourgogne-Franche-Comté. En pleine séance au conseil régional, Julien Audoul avait apostrophé une mère voilée présente dans le public avec un groupe d'enfants. La classe politique avait dans sa grande majorité condamné la sortie de l'élu lepéniste, mais le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait semé le trouble dimanche en estimant que le voile n'était pas souhaitable dans notre société. À l'Assemblée aujourd'hui, plusieurs députés Les Républicains ont réclamé une loi interdisant le voile dans le temps scolaire. Édouard Philippe leur a opposé une fin de non-recevoir. On va écouter successivement le député LR Jean-Louis Masson et la réponse du Premier ministre.
Monsieur le Premier ministre, les Français attendent de la clarté, mais votre majorité reste tétanisée sur le sujet de fond des signes religieux ostentatoires dans la sphère publique. Seriez-vous prêt, oui ou non, à interdire le port du voile dans les sorties scolaires ?
Monsieur le député, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas aux parents d'élèves. Je ne pense pas pour ma part, monsieur le député, et peut-être serons-nous en désaccord, je ne pense pas pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. L'enjeu, c'est de combattre efficacement les dérives communautaires. L'enjeu, c'est bien d'éviter, me semble-t-il, que les enfants, à raison des convictions religieuses pouvant relever du communautarisme ou de l'islam politique, de leurs parents, échappent à l'école. Ma ligne, c'est de me battre pour défendre la laïcité. C'est cette ligne que nous tenons dans l'éducation nationale, avec l'équipe nationale et les équipes académiques laïcité qui agissent au quotidien pour qu'aucun enseignant ne reste seul face à un problème sur ce sujet. Ma ligne en la matière, c'est de mener sans faiblesse la lutte contre la radicalisation, cette radicalisation islamiste qui menace notre société.
Édouard Philippe, cet après-midi à l'Assemblée, lors de la séance des questions au gouvernement, selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, 66% des Français, les deux tiers donc, sont favorables à l'interdiction des signes religieux ostensibles aux parents d'élèves qui accompagnent les sorties scolaires. Un sondage qui a été réalisé fin septembre. La place de l'islam dans notre société est au cœur du débat public aujourd'hui en France, avec tous les risques de stigmatisation que cela implique. Exemple, à l'université de Cergy-Pontoise, un mail du responsable sécurité de l'établissement a suscité la polémique. Le document visait à détecter les signaux faibles de radicalisation au sein du personnel. Une liste de ces signaux faibles était proposée, l'absence aux heures de prière, le fait de ne plus manger de porc ou bien le changement de tenue vestimentaire. Face au tollé, la direction de l'université a finalement retiré le document en invoquant une maladresse. On en parle avec l'invité de ce journal, Orlane François, présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant français. Bonsoir.
Bonsoir.
Orlane François, est-ce que vous condamnez cette initiative du responsable sécurité de l'université de Cergy ?
Je crois qu'il y a en effet une forte condamnation à avoir sur ce qui a été édité. Aujourd'hui, c'est pas acceptable et il doit y avoir des sanctions et c'est ça sur lequel je pense qu'il faut revenir aujourd'hui. Le document est en effet est largement condamnable et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. Mais maintenant, la réponse qui a été apportée par l'université de Cergy et de son président, déjà de retirer le document, était une bonne chose évidemment, mais la réponse est insuffisante à nos yeux. Il faut aller plus loin avec une enquête pour savoir comment ce document a été rédigé, par qui il a été commandité et puis surtout une enquête et puis des sanctions à avoir disciplinaires peut-être envers celles et ceux qui ont produit ce document.
Qu'est-ce qui vous choque précisément dans ce document ?
Je crois que ce document, il est plus que discriminant. Évidemment qu'il faut travailler sur les questions de radicalisation, il ne faut pas aujourd'hui les écarter. Par contre, la manière dont ça a été fait, ce n'était pas du tout la bonne manière à aborder. Le document met en place des critères qui sont stigmatisants, qui sont très discriminants envers une catégorie de personnes et notamment les étudiants ou bien les enseignants, ou bien les personnels qui sont des pratiquants ou qui pratiquent la religion musulmane, par exemple, puisque c'est vraiment ce qui est aujourd'hui ciblé dans ce document-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'on stigmatise autant des gens qui pratiquent une religion, puisque les critères qui sont quand même évoqués, ce sont des critères qui correspondent à une pratique d'une religion. Et aujourd'hui, c'est inacceptable d'avoir ces signaux qui soient listés ainsi, de vouloir suivre, enfin dénoncer, enfin, voilà, c'est c'est très délicat comme document, vraiment.
Alors justement, ce document repose sur la théorie des signaux faibles, ces petits signes finalement qui montreraient qu'une personne serait en voie de radicalisation, sans pour autant d'ailleurs qu'il s'agisse d'un comportement illégal. Est-ce qu'il faut renoncer, selon vous, à cette théorie des signaux faibles ?
Je pense qu'il faut pas. Il y a deux éléments. Je pense qu'il y a une situation aujourd'hui en France qui existe avec des attentats qui ont été perpétrés sur le territoire français, qui sont liés à une radicalisation et à un islamisme, enfin un djihadisme et toutes ces formes très extrêmes de cette religion. Aujourd'hui, par contre, il ne faut pas rentrer dans une logique de délation ou d'ultra-stigmatisation d'une population au risque de rentrer et de renforcer l'amalgame qui existe déjà aujourd'hui de la pratique de la religion musulmane avec les dérives extrémistes qui existent de la pratique de certaines formes de religion, et notamment du djihadisme ou autres dérives extrémistes de la religion. Donc attention à l'amalgame qui peut être produit et renforcé encore plus avec ce genre de document aujourd'hui qui est transféré et diffusé dans les universités.
Alors concrètement, comment on fait pour détecter les signaux de radicalisation si effectivement il y a ce risque de stigmatisation que vous évoquiez ?
Alors, je suis pas experte dans ces domaines-là, donc je vais pas vous apporter une réponse technique et experte sur le sujet parce que c'est pas mon domaine. Mais cette méthode, vraiment, là, les critères, enfin, il faut regarder les critères qui étaient mis dans le document. Le fait de s'intéresser à l'actualité nationale ou internationale était un critère. Selon le document, un signe faible. Le fait aujourd'hui d'être absent les vendredis matins ou aux heures de prière. Alors oui, on peut être pratiquant, aller prier, sans pour autant que ce soit un signe de radicalisation. Et d'autant plus que, attention, on stigmatise parce qu'aujourd'hui, on cible là un type de terrorisme qui est le djihadisme. N'oublions pas qu'en France, il existe, et partout dans le monde, d'autres formes de terrorisme, le terrorisme d'extrême droite, etc. Et par contre, là, aujourd'hui, dans le document qu'on avait sous les yeux, on n'en parlait pas de cette forme de radicalisation.
Oui, mais sauf que l'islamisme a déjà tué 265 personnes, je crois, depuis les attentats de Charlie Hebdo. C'est aujourd'hui cette forme de terrorisme qui pose problème aujourd'hui en France.
Je ne minimise pas l'impact du terrorisme djihadisme ou autre. Par contre, n'oublions pas également que le terrorisme, d'autres formes de terrorisme font également des morts. On a eu encore des exemples en Allemagne très récemment et il y en a d'autres aujourd'hui partout dans le monde qui ont éclaté. Donc il n'y a pas de plus fort terrorisme que d'autres. Je pense qu'il faut tout se prendre en compte. Mais attention à la stigmatisation qu'on peut faire vers un public, une communauté, pour le coup, qui est une forte stigmatisation. Et au-delà du message qui a été délivré par le président de l'université de dire que c'est un message qui est maladroit, plus que ça, ce n'était pas un message qui était maladroit, c'était un message qui était vraiment une mauvaise méthode adaptée pour travailler sur ce sujet-là. Et bien sûr qu'il faut travailler. Après, je pense qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent être créés par des experts peut-être sur ces sujets-là qui peuvent être plus efficaces que ce genre de documents diffusés dans l'université.
Et donc vous attendez davantage de la présidence de l'université sur cette affaire ?
En effet, nous attendons que la présidence de l'université prenne des mesures disciplinaires sur ce document et puis qu'il y ait une enquête pour savoir comment ce document est arrivé, comment ce document, pourquoi il a été rédigé, par qui il a été poussé. Est-ce que le président, mais ça on ne le sait pas, et en tout cas il n'a pas l'air de le dire, était au courant des rédactions et des envois de ce document. Enfin, voilà. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on ait une vision très claire pour que surtout ce document ne réapparaisse pas et que ça n'apparaisse pas dans d'autres établissements d'enseignement supérieur partout en France.
Dernière question, Orlane François, votre syndicat, la FAGE, a-t-il constaté ces derniers mois, ces dernières semaines, une montée du communautarisme religieux sur les campus ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça aujourd'hui.
La situation vous semble calme, enfin la situation sur les campus, il n'y a pas de problème lié à un quelconque communautarisme religieux ?
Non, on ne remarque pas ça sur nos campus, en tout cas ce n'est pas quelque chose qu'on a remarqué et qu'on veut mettre en avant aujourd'hui.
Orlane François, présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir.
Merci à vous.
L'Assemblée a adopté aujourd'hui à une large majorité le projet de loi bioéthique et sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Texte voté par 359 voix contre 114 et 72 abstentions. Globalement, la majorité et la gauche ont apporté leur soutien au projet de loi, alors que la droite l'a rejeté. Mais dans le détail, on constate que 8 élus LREM et 3 Modem ont voté contre. Le temps demain sera pluvieux sur les régions du nord-ouest, du Poitou-Charentes à la frontière belge. Ailleurs, le ciel sera variable et souvent ensoleillé après dissipation des brumes matinales. Les températures minimales seront comprises entre 5 et 17 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales oscilleront entre 14 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.